Bonjour amis auditeurs. Aujourd'hui, on va parler d'élevage industriel des poules. C'est à partir d'un article dans le Canard enchaîné de la semaine, dans le Confit du Canard. Roule ma poule. Lamentable, insupportable. Il est tout de suite monté sur ses ergots, notre ministre de l'Agriculture. Après le choc provoqué par la vidéo de l'Association de défense des animaux L214 qui révélait des conditions sanitaires apocalyptiques dans un élevage géant de 200 000 poules pondeuses. Des bêtes et des œufs infestés de poux au milieu de cadavres en décomposition sur un sol grouillant d'asticots. Et Stéphane Le Foll d'insister. Ce poulailler géant porte une responsabilité pour tous les autres qui travaillent correctement. Et le Comité national pour la promotion de l'œuf, qui regroupe tous les industriels du secteur, de reprendre encore ces images, ils ne reflètent en rien la pratique des 700 éleveurs de la filière française. Rappelons quand même que le ministère de l'Agriculture était au courant depuis 3 ans des joyeuses conditions de vie à l'intérieur du dit poulailler. En juin 2013, un premier film de l'association en question sur l'élevage de Chalins dans l'Ain avait déjà fait scandale, obligeant les services vétérinaires à se rendre sur place. Les inspecteurs écœurés avaient notamment relevé des accumulations de fientes et la présence importante de mouches et de larves. Malgré 3 arrêtés préfectoraux successifs, le dit élevage avait continué de produire comme s'il de rien n'était. Il était expliqué sur son site internet que les poules en cage vivaient plus longtemps que celles en plein air, et que leurs conditions de vie n'étaient pas aussi pitoyables que ce que l'on voudrait nous faire croire. Fin de citation. Rappelons aussi que ce vilain petit canard travaillait pour la première marque d'œufs en France, Matine. Chaque jour, les patents poulaillers produisaient 160 000 œufs estampillés code 3 sur la coquille. Le code 3, c'est le low cost de la poule pondeuse. 68% des 47 millions de poules françaises en pondent. Dans ce chouette modèle industriel, les volatiles vivent sous lumière artificielle, à 9 par cage, avec pour chacun l'équivalent d'une feuille A4 pour se mouvoir, ce qui donne la protéine la moins chère du marché. Et qui en profite? La marque Matine. Et à qui appartient-elle? Au groupe Avril, un conglomérat de l'agro-business qui aligne 8000 salariés pour 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel et qui dirige depuis l'an 2000 ce leader français de l'industrie oléagineuse, du biodiesel et de la nutrition animale et de l'œuf. Xavier Belin, le patron de la FNSEA, le tout-puissant syndicat agricole, chantre du productivisme, une vraie tête d'œuf. On comprend peut-être un petit peu pourquoi ces arrêtés préfectoraux de cet élevage n'ont pas été mis en œuvre et que on se demande, alors que parfois on condamne ou on emmerde un petit chevrier ou un petit éleveur de moutons parce que son atelier pour faire le fromage n'est pas tout à fait conforme aux normes administratives. Enfin, faisons confiance que finalement c'est le consommateur qui va faire la différence puisqu'il n'achètera plus ce genre d'œufs-là. Alors, je voudrais continuer toujours sur une note de d'emmerdeur dans Campagne solidaire de mois de mai sur l'actualité OGM, la mobilisation s'amplifie contre les nouveaux OGM. Sept organisations de la société civile ont claqué la porte du Haut Conseil des biotechnologies. Elles en dénoncent la démarche tronquée dans le but de faire passer les OGM issus des nouvelles techniques telles que la mutagénèse, la cisgénèse et autres dans nos champs et nos assiettes. Rue du Maine à Paris, le 6 avril 2016, à l'appel de 8 organisations paysannes et de la société civile, dont la Confédération paysanne, une bonne centaine de personnes est rassemblée devant les grilles d'AgroParisTech, école dont les locaux devaient accueillir les membres du Haut Conseil des biotechnologies pour une séance plénière. Dans le collimateur, les nouvelles techniques de modification génétique, faussement appelées « nouvelles techniques de sélection », et qui sont toutes en réalité des nouvelles techniques produisant des OGM. Pour rappeler, la directive européenne 2001-2018 définit un OGM comme un organisme à l'exception des êtres humains dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication et ou par recombinaison naturelle. Cette définition implique des règles d'évaluation, de traçabilité, de contrôle, d'étiquetage, ce dont ne veulent pas les promoteurs des OGM, compte tenu du rejet des consommateurs et des coûts supplémentaires engendrés par cela. La pression de l'industrie semencière, l'Imagrin en tête, est forte auprès des ministères de tutelle et de l'Union européenne au moment où cette dernière doit se prononcer sur l'exclusion ou non de ces techniques du champ d'application de la directive 2001-2008. Les firmes semencières ont bien compris que si elles veulent développer ces nouveaux OGM protégés par les brevets et coloniser nos champs et nos assiettes avec les OGM végétaux et animaux qui en sont issus, ces techniques ne doivent pas être considérées comme des OGM pour échapper aux règles d'évaluation, de traçabilité et d'étiquetage. Les divergences ignorées, composées d'un comité scientifique et d'un comité économique, éthique et social, le Haut Comité des biotechnologies est chargé d'éclairer la décision politique sur les biotechnologies sur cette question des NT-OGM. Qui devenait urgente. Nos 8 organisations ont dû ferrailler très fort pour porter leurs arguments. Mais le 4 février dernier, le bureau du HCB a remis au gouvernement une note présentée comme un avis scientifique consensuel, considérant ces nouvelles techniques comme inoffensives et estimant qu'elles ne devaient pas être traitées comme produisent des OGM, comme produisant des OGM, problème, les divergences ont été ignorées. Cette censure est totalement inacceptable. Pour protester contre ces pratiques, un membre du comité scientifique, Yves Berthaud de l'INRA, a démissionné en février et nos 8 organisations paysannes et de la société civile ont suspendu leur participation au Haut Comité sur les biotechnologies tant que ces dysfonctionnements majeurs ne seront pas réglés et en particulier tant que tous les avis ne seront pas réellement pris en compte. Mais rien n'y fait, le HCB invente de nouveaux prétextes pour ne pas publier l'avis scientifique divergent. Face à ce constat, Patrick et Decoco du réseau Semences Paysannes a démissionné de son poste de vice-président du comité social le 11 avril, suivi 2 jours plus tard par 7 organisations, dont la Confédération paysanne, qui refusent de participer plus longtemps à cette mascarade. Le vrai faux avis est cependant aujourd'hui sur la table du gouvernement français et sur celle de l'Union européenne qui doit se positionner prochainement sur le statut juridique de ces nouveaux OGM. Le 6 avril, lors du rassemblement à Paris, a été lancée une campagne contre les nouvelles techniques de manipulation génétique. Ce qui est en jeu, c'est notre santé, notre environnement, nos pratiques paysannes et notre sécurité alimentaire. C'est bien ça que les participants à la mobilisation de Paris ont voulu mettre en lumière. C'est un article signé Jean-Luc Jutier, paysan retraité dans la Loire. Et il y a une pétition à signer et relayer. www.nouveauxoaxogm.fr Dans campagne solidaire du mois de mai, toujours un point de vue du secrétariat de la Confédération nationale paysanne. Pourquoi la Confédération paysanne soutient les luttes contre la loi travail? Le Code du travail a plus d'un siècle. Sa mise en œuvre, à force de luttes et de sang versé, a été une immense victoire populaire face à l'appétit sans fin des profits et des possédants et l'exploitation des travailleurs et des travailleuses rémunérés pour leur seule production. Même si le droit du travail s'est depuis enrichi, l'affaiblissement des luttes sociales depuis plusieurs décennies a laissé la place à une contre-offensive généralisée sous couvert du terme imposé de « crise ». L'organisation de la guerre économique par la libéralisation des échanges a fait de la compétitivité l'argument systémique ou systématique du patronat pour réclamer la démolition des constructions collectives qu'il avait concédées, outre le droit du travail, la sécurité sociale, les retraites, les services publics. Loi après loi, les contrats de travail sont fragilisés, la protection sociale est rognée de partout, les licenciements sont facilités, le chômage et la précarité se généralisent, servant de prétexte à tout nouveau recul social. La population en général est précarisée. Dans ce contexte, la finalité et la stratégie des syndicats sont remises en cause. Quoi de nouveau? Quelle intention générale dans la loi travail? En permettant, entre autres dispositions, que les accords d'entreprise et de branche dérogent au droit commun, la loi El Khomri réinstituera le patronat dans une position encore plus forte, où le chantage à l'emploi accélérera toutes les régressions du pain béni pour les dirigeants économiques, que rien ne fait plus rêver qu'une société ramenée à un vivier d'auto-entrepreneuses et d'auto-entrepreneurs compétitifs, c'est-à-dire bon marché et précarisés, donc corvéables et jetables à merci. Le gouvernement ne se vante pas de la justification idéologique de ce grand bond en arrière dans le 19e siècle. Elle s'appelle la théorie du ruissellement. Elle est de Ronald Reagan, plus les riches sont riches, plus les miettes seraient grosses pour les autres. Une manière toute particulière d'envisager le socialisme, entre guillemets. Et nous, Confédération paysanne, quel message avons-nous à faire entendre? Nous sommes un syndicat paysan qui prône la défense de l'agriculture paysanne, de tous ses travailleurs. Comme travailleurs et travailleuses de la terre, nous connaissons bien la précarité des rapports de force défavorables et la difficulté à faire reconnaître nos droits, aux revenus notamment. Nous savons ce que nous pesons individuellement face à l'appétit des banques et des agro-fournisseurs, des industries agroalimentaires ou de la distribution. Souvent, nous sommes également employeurs et employeuses. Cela ne nous aveugle pas. Nous savons combien les distorsions des droits et des rémunérations entre travailleurs et travailleuses en Europe et dans le monde sont utilisées contre la juste rémunération de notre propre travail de paysan. Comment accepter avec cette nouvelle loi une telle régression des droits de l'ensemble du monde du travail dans une position de vulnérabilité incomparable à celle que nous vivons encore, nous paysans et paysannes, et contre laquelle nous nous battons au quotidien? L'agriculture de compétition saura tirer profit de cette loi, comme de toutes les dérégulations. Notre soutien aux luttes contre la loi El Khomri ne relève donc pas seulement de la solidarité avec le monde salarié. Cette loi renforce des processus de dépendance contre lesquels nous nous battons en défendant les paysans et les paysannes contre l'agro-business. Elle prône la démolition des constructions collectives au nom de la compétition économique, quand nous nous battons au contraire pour une transformation de l'agriculture fondée sur l'utilité sociale de notre travail, à l'exact opposé des dogmes cannibales du libéralisme. La loi El Khomri entre pleinement dans la spirale de déconstruction des droits sociaux en Europe. Elle dépasse largement le domaine de l'agriculture. La Confédération paysanne combat depuis longtemps toujours les principes qui l'inspirent, soutenir le mouvement qui se lève, c'est prolonger nos combats de toujours. Et c'est bien de l'esprit de la commune qui doit nous animer qui va être question dans cette chanson de Jean Ferrat.
Il y a 100 ans, commune, comme un espoir mis en chantier, il se levait pour la commune en écoutant chanter Potier. Il y a 100 ans, commune, comme une étoile au firmament, il faisait vivre la commune en écoutant chanter Clément. C'était des ferronniers aux enseignes fragiles, c'était des menuisiers aux 100 coups de rabot. Pour défendre Paris, ils se firent mobiles, c'était des forgerons devenus des meublots. Il y a 100 ans, commune, comme artisans et ouvriers, ils se battaient pour la commune en écoutant chanter Potier. Il y a 100 ans, commune, comme ouvriers et artisans, ils se battaient pour la commune en écoutant chanter Clément. Devenus des soldats aux consciences civiles, c'était des fédérés qui plantaient un drapeau, disputant l'avenir au pavé de la ville. C'était des forgerons devenus des héros. il y a 100 ans, commun, commune, comme l'espoir mis au charnier. Il voyait mourir la commune. Ah, laissez-moi chanter, potier. Il y a 100 ans, commun, commune, comme une étoile au firmament. Il s'éteignait pour la commune. Écoute bien chanter Clément.
Alors, pour la fin de cette émission, on va continuer dans ce même état d'esprit en lisant l'article de Jean-Luc Porquet dans Le Dernier Canard Enchaîné. Plus de paroles, des actes, ou, comme vous voulez, plus de paroles, mais des actes. Bon, on n'est pas bientôt, ce n'est pas bientôt fini, Nuit debout. Voilà pas moins de 2 mois qu'ils occupent la place de la République, et tout ça pourquoi ? Pour du blabla. Il n'en est rien sorti. Pas un programme, pas une idée, pas un leader, du vent. Des paroles à n'en plus finir. Pendant ce temps-là, les travailleurs dorment et le matin se retroussent les manches. Ils agissent, eux, ils sont dans la vraie vie. Ce sont les forces vives, etc., etc. Voilà exactement un demi-siècle dans son exégèse des nouveaux lieux communs. Jacques Ellul se moquait de ce mot d'ordre émanant de notre société technicienne, avide de résultats, entre guillemets, et d'efficacité. La haine du discours est le souci de l'acte. Il n'est pas un discours qui n'y fasse allusion. Avant tout, être efficace, n'est-ce pas le mot d'ordre des techniciens, politiciens, militaires, ingénieurs, économistes, communistes et autres actifs, grâce à qui le monde moderne est ce qu'il est ? Et Jacques Ellul de faire l'éloge de la parole et du débat, lesquels introduisent doute, complexité, altérité. Si tu réfléchis aux tenants et aboutissants de tes actes, tu es perdu. Si tu réfléchis à la signification de tes actes, tu es paralysé. Si tu cherches une raison, tu n'en trouveras pas. Si tu tiens compte de l'homme d'en face, tu ne passeras jamais. Telle est la profonde sagesse exprimée par ce lieu commun. Ce qu'aura apporté Nuit debout, c'est ça, un démenti à ce lieu commun, une résistance à ce système qui se méfie tellement de la parole libre qu'elle l'encage dans des écrans. Oui, il peut y avoir des débats sans qu'Yves Calvi y distribue le droit de parler, sans qu'on entende pérorer Yves Tréhard, sans que défilent les mêmes bobines d'experts et d'autosatisfaits, sans qu'apparaisse le sigle BFMTV, le générique de fin et la page de publicité. Il y a des chances que Nuit debout soit en train de s'éteindre. Et alors ? Les Nuits deboutistes ne se sont jamais dit immortels. Leur mouvement a essaimé en France et à l'étranger. Il a infusé, capillarisé, il peut désormais s'assoupir, muter, renaître sous d'autres formes. L'important, comme le dit un assidu dans le monde libertaire, c'est que beaucoup ont vécu ceci. On fait connaissance, on échange des contacts, on transmet des idées, on ressent dans ses tripes la démocratie directe, on s'ébahit de son pouvoir. Qu'après le 7 janvier et le 13 novembre est née une inextinguible soif de comprendre et de débattre, et de parler, vrai, que les postures de Matamor, les 49-3 et les coups de gueule prétendument virils paraissent désormais venir d'un monde englouti, dépassé, largué. Voilà ce qu'a prouvé, entre autres, Nuit debout, de quoi démentir Ellul qui prophétisait, et parce que l'acte seul importe, la clameur du crétin actif remplira seul désormais le ciel. Et je pense que nous arrivons bientôt à la fin de l'émission. Je voudrais vous parler, je vous ai dit que les Suisses allaient voter pour un revenu universel. ce que nous avons fait, puisque j'ai encore la possibilité de voter en Suisse. Et malheureusement, évidemment, le résultat du vote n'était pas selon mon souhait, c'est-à-dire que les Suisses ont rejeté assez massivement le revenu universel inconditionnel. Mais ce qui m'a amusé, c'est que les opposés à ce revenu universel estimaient que c'était dangereux parce que ça amènerait les gens à ne pas vouloir travailler. Et ça, je pense que c'est une absurdité. Et ça m'amène à vous dire, pour terminer cette émission, une parole de sagesse venant des Indes qui dit « Il n'a pas envie de travailler, ce type-là, mais il lui manque quelque chose, donc il faut le nourrir jusqu'à ce qu'il ait envie de faire quelque chose. » Parce que, entendons-nous bien, travailler, c'est une forme de torture, alors que œuvrer, tel que l'on a employé la chose pour dire qu'on était actif, qu'on posait des actes, œuvrer jusqu'au début de l'ère industrielle, et c'est à ce moment-là qu'on a employé le mot « travail ». Donc, voilà, je pense qu'effectivement, quelqu'un qui n'a pas envie de faire que d'œuvrer, d'être actif, il lui manque quelque chose, et les orientaux ont bien raison de dire que eh bien, il faut le nourrir jusqu'à ce qu'il ait envie, jusqu'à ce que se réveille. C'est ce qui fait la dignité de l'être humain, c'est d'être actif, d'être présent à son monde. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous donne rendez-vous à la même heure sur FM Plus la semaine prochaine. Et on envoie toujours dans le même état d'esprit la chanson de Jean Ferrat, Camarade. À bientôt.
C'est un joli nom, camarade. C'est un joli nom, tu sais, qui marie cerise et grenade aux cent fleurs du mois de mai. Pendant des années, camarade, pendant des années, tu sais, avec ton seul nom comme au bade, les lèvres s'épanouissaient. Camarade, camarade, c'est un nom terrible, camarade, c'est un nom terrible à dire. Quand le temps d'une mascarade, il ne fait plus que frémir. Que venez-vous faire, camarade? Que venez-vous faire ici? Ce fut à 5 heures dans Prague que le mois d'août s'obscurcit. Camarade, camarade, c'est un joli nom, camarade, c'est un joli nom, tu sais, dans mon cœur battant la chamade, pour qu'il revive à jamais. Ce mari cerise et grenade aux cent fleurs du mois de mai.